my fourth time giving a discourse outside of our
C'est la quatrième fois que je donne un discours en dehors de mon assemblée.
The other three times were also in France
Les
while we were
trois
here.
Dernières fois étaient également en France durant notre récent séjour.
So I thank you for helping
Donc,
me get my feet wet.
Je vous remercie de m'avoir permis de me jeter à l'eau et vous servir de nouveau. Et littéralement, la piscine est juste derrière lui. Je vous apporte les salutations des États-Unis. Les frères ont appris que nous venions. Et nous avons énormément d'amour, en particulier de notre assemblée en Alabama, l'assemblée de Tennessee Valley. Certains d'entre vous ont pu rencontrer certains membres de notre assemblée l'année dernière à l'international, le frère Brandon, la sœur Karen, la sœur Renée qui étaient avec nous. Ensuite, nous avons eu notre conférence en septembre et les pères présents ont envoyé leurs salutations aux frères de France et partout où nous planifions de nous rendre, et en particulier le frère Omer Montag et sa fille, la sœur Cathy Sandridge, également le frère Russ, la sœur Dawn Chalieu. Nous apportons également l'amour des frères d'Angleterre, et nous avons été la semaine dernière, le frère Nicolas Charteros, le frère Martin Powell, le frère Fred Pins, le frère Donald Holliday, la sœur Gwen, et tous les frères présents durant la conférence que nous avons eue. Quel festin nous avons eu ces deux derniers jours. Mon sujet s'intitule « Accomplir sa course dans la joie ». Mon thème est tiré de Actes, chapitre 20, verset 24.
But I do not consider myself, my life, of any account.
Mais je ne fais pas pour moi aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Apparemment, il y a un petit souci de radio. On attend quelques secondes. Est-ce que vous entendez ? Donc, le sujet d'aujourd'hui est tiré de Actes 20, 24, accomplir sa course dans la joie. Pour moi, la chose la plus précieuse est que j'accomplisse ma course avec joie. Ce sont les paroles de l'apôtre Paul. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Actes 20, verset 24. Notre leçon est tirée de la vie de notre cher apôtre Paul. Je souhaiterais aborder les batailles quotidiennes qu'il eut pour transformer toutes choses dans sa vie pour l'œuvre de Jésus-Christ et Christ seulement. L'apôtre Paul semble ne rien avoir laissé de sa vie sujet à interprétation. Après avoir vu Christ sur la route de Damas et entendu et compris ce que Christ avait fait pour lui personnellement et pour le Père Adam et toute l'humanité, il choisit de vivre sa vie de sacrifice avec ferveur et digne de porter le nom de Christ. Au travers de sa vaste connaissance et compréhension des choses, ses expériences de vie extrêmes, ses défis et les violentes attaques de toutes parts, il a été en mesure de nous montrer de nombreuses leçons, répondant ainsi à nos propres perplexités quotidiennes. Philippiens 3:14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Cela furent les paroles d'un des précurseurs les plus fervents et les plus fidèles pour le prix du haut appel de l'Église de l'Évangile. L'apôtre Paul était un homme de grande foi. Il alla là où un grand nombre lui recommanda fortement de ne pas aller. Il était un homme de grande expérience. Il comprenait à la fois le rôle de la faveur juive ainsi que l'adoption des païens et comment tous sont rachetés dans le divin plan de Dieu en Jésus-Christ. C'était un homme de détermination et d'un courage inébranlable. Rien ne l'arrêtait. Il était sage au regard des Écritures, bien que considéré comme un fou aux yeux du monde. Nous sommes assurés que son pèlerinage sur le chemin étroit, ainsi que celui des 11 apôtres, fut victorieux. Car dans l'Apocalypse de Jean, l'auteur décrit la nouvelle Jérusalem céleste, disant « La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. » Apocalypse 21, verset 14. À la fin de sa course, l'apôtre Paul, en pleine assurance de foi, nous a laissé ce témoignage triomphant. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. 2 Timothée 4, versets 7 à 8. Et ensuite, ayant toujours à l'esprit les autres membres du corps, toujours dans la course, il ajouta, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Verset 8 de 1 Timothée 4. Il parle de vous et moi, chers frères et sœurs. Nous ne sommes pas oubliés dans ces paroles. Avons-nous atteint et maintenu ce genre de foi? Le mot grec, traduit par « combattu », vient de la concordance Strong comme le numéro 75 et porte la signification « lutter », au sens propre « concourir pour un prix » et au figuré « lutter contre un adversaire » ou généralement « s'efforcer d'accomplir quelque chose ». Combattre, travailler, lutter avec ferveur. Voici quelques versets complémentaires qui décrivent le combat du chrétien. Luc 13, 24. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Jean 18, 36. Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Et maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » 1 Corinthiens 9, verset 25. Tous ceux qui combattent, qui recherchent à dominer ou à maîtriser en anglais, s'imposent toute espèce d'abstinence et le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. En Colossiens 1, 29, c'est à quoi je travaille, en combattant avec ta force, qui agit puissamment en moi. Nous travaillons chaque jour et combattons à l'œuvre du Seigneur. Colossiens 4, 12. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Prions-nous ainsi les uns pour les autres?
1
Timothée 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Nous rendons-nous compte que nous sommes appelés à être héritiers et co-héritiers de Christ, Romains 8, 17, par celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. 2 Pierre 1, verset 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous, soyez prompts, ne ménagez aucun effort, courez avec fidélité, œuvrez, étudiez, d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne trébucherez jamais. En examinant le parcours réussi de ceux qui nous ont précédés, ils sont pour nous un énorme encouragement et une aide pour tous ceux qui s'efforcent encore d'assurer leur appel et leur élection. Ils ont partagé leur expérience à notre avantage. Même l'apôtre Paul, fort et par sa force et son courage, nous rappelle qu'il avait une passion similaire à la nôtre. Et tandis qu'il combattait le combat du chrétien, il ne considérait pas avoir atteint la marque pour le prix, ni ne considérait lui-même parfait. Il ne se considérait lui-même pas parfait. Philippiens 3, 12. Il nous dit qu'il réalisait qu'une autre loi luttait dans ses membres, une loi contraire à la loi de son entendement, Romains 7, 23, et qu'il trouvait nécessaire d'exercer continuellement sa nouvelle volonté pour maintenir le corps soumis, 1 Corinthiens 9, 27.
Donc,
ce sont les références que j'ai données. Ne menons-nous pas le même combat que l'apôtre Paul? Mais nous n'en sommes pas moins enfants de Dieu.
Si
les douze apôtres et les saints bien-aimés de l'Église primitive étaient des hommes de passion semblables aux nôtres, assaillis par les infirmités, des influences contraires, des attaques, des tentations et des séductions, et s'ils étaient aussi fréquemment assaillis par des tentations et des épreuves qui nécessitaient toute leur force pour leur permettre de vaincre, et dans leur réussite, nous avons aussi l'assurance que nous pouvons de même être vainqueurs par la grâce qui nous est promise, à condition que nous en tirions parti. Car nous avons l'assurance que Dieu peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépensible et dans l'allégresse. Jude, verset 24. L'apôtre avait une telle assurance de sa fidélité constante, ainsi que de celle des autres apôtres et de ses co-ouvriers, qu'il pouvait dire à l'Église, en 1 Corinthiens 3, 9, vous nous avez pour exemple, et en Philippiens 3, 17, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en eûmes pas le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. 2 Thessaloniciens 3, versets 7 à 9. 1 Corinthiens 4, 9. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres les derniers des hommes, des condamnés à mort, en quelque sorte, puisque nous avons été un spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Paul croyait fidèlement dans la puissance et la force du Seigneur afin d'être victorieux dans sa vie. Ils étaient de nobles exemples de fidélité, de zèle, de patience, d'endurance et d'une véritable détermination chrétienne et un héroïsme chrétien. Au commencement de la course chrétienne de Paul, le Seigneur dit, Actes 9, verset 16, « Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Mais au lieu de laisser la perspective d'une tribulation continuelle le déprimer, il se réjouit simplement du privilège qui lui est accordé de témoigner de son amour et de sa dévotion au Seigneur. Actes 20, versets 22 à 24. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Écoutez donc le témoignage de l'apôtre sur sa propre expérience. Sont-ils ministres de Christ? Je le suis plus encore, par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus, par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups, moins 1. Ça fait 195 fois qu'il a été fouetté. 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. 2 Corinthiens 11, versets 23-27. Malgré toutes ces tribulations, l'apôtre Paul continua à courir vers le but pour remporter le prix du haut appel, Philippiens 3-14. Ce but à atteindre, c'est la sainteté, afin que la sainteté amène toute pensée captive à la volonté de Dieu qui est l'Esprit de Christ. 2 Corinthiens 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Paul dit à Timothée également, 1 Timothée 1, 18, « Combat le bon combat de la foi. souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et cependant, l'athlète, voulant exceller dans sa carrière, n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. 2 Timothée 2, versets 3 à 5. Paul poursuivait constamment ce grand idéal. Et sa vie donnait la preuve d'une croissance constante dans la grâce. Il est particulièrement important que nous observions comment notre bien-aimé frère Paul a été capable de résister aux tentations et aux attaques et a été capable de courir avec tant de constance dans cette course difficile. Philippiens 3, versets 13 à 14. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi ou atteint. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. Et donc, je vais de l'avant, je suis pour remporter le prix de la vocation. C'est l'appel de Dieu en Jésus-Christ. Chaque jour, l'apôtre Paul a travaillé dur pour imiter Christ et ainsi établir un standard de vie digne d'être imité. En faisons-nous de même, en établissant un standard de vie pour nos frères, nos familles et nos amis, et même pour ceux qui s'opposent à nous? Observons brièvement six étapes essentielles à notre vie chrétienne. Numéro 1, l'humilité. L'humilité a déjà été mentionnée. La volonté ou la nécessité d'être humble. 2, un but unique, une unité d'objectif. Le désir de notre première pensée matinale est 3. Oubliant ce qui est en arrière, que ce soit la honte, la culpabilité, les affaires terrestres, l'enterrement de nos morts. 4. Nous portant vers l'avant. Sommes-nous portés par les bonnes choses ou sommes-nous absorbés et sommes-nous de plus en plus occupés? 5. Gardez notre attention sur le but. Le but cité auparavant, c'est la sainteté. 6. Être un modèle ou un exemple de caractère chrétien. Que notre vie illustre le standard. Regardons à présent d'un peu plus près ces six standards. Tout premièrement, l'attitude essentielle à notre vie de chrétien, c'est l'humilité. L'apôtre fit une humble et sobre évaluation de son état spirituel et de sa force. Il ne s'enorgueillissait pas d'être un vase choisi du Seigneur pour porter son nom devant les païens et devant tous les hommes. Il ne se considérait pas lui-même comme le grand apôtre, ni ne se loua ou vanta d'aucune manière. Il était si loin de se vanter de ses accomplissements spirituels qu'il rappela humblement à l'Église qu'il n'était lui-même pas épargné d'un rejet éventuel. Après avoir prêché aux autres, il devait constamment tenir ferme dans son intégrité et grandir dans la grâce. 1 Corinthiens 9, verset 27. Qu'est-ce que c'est que d'être rejeté? Signifie que n'est pas approuvé, il est vain, rejeté. tandis qu'ils maintenaient devant eux Christ, puissance et sagesse de Dieu et modèle à imiter, ils déclaraient humblement qu'ils s'efforçaient avec eux de suivre le seul vrai modèle, Jésus-Christ, tout en se confiant seul dans le mérite de son sacrifice pour combler ses propres lacunes. Paul était libéré du plus grand obstacle pour le développement spirituel qui est l'autosatisfaction. Car si quiconque pense avoir atteint un état spirituel satisfaisant, c'est le moment où il peut dater le commencement de son déclin spirituel. Aucun aboutissement ne peut être satisfaisant pour un disciple fidèle de Christ qui s'efforce studieusement de copier le modèle parfait. C'est seulement lorsque nous tournons nos yeux vers Christ que l'autosatisfaction peut être exercée. Car en observant dans le détail le modèle parfait, nos manquements sont manifestés. Et si nous sommes trop absorbés, nous ne regarderons pas le modèle. Si dans l'orgueil de notre cœur, nous perdons de vue nos manquements, ils deviennent alors plus évidents aux autres. Et personne n'aime que les autres nous fassent remarquer nos faiblesses. C'est uniquement dans notre réalisation et dans notre croissance continuelle à la ressemblance de Christ que le chrétien doit trouver satisfaction. C'est un cheminement personnel entre vous et le Seigneur, et tout concourra pour le bien. Romains 8:28. Tout comme l'apôtre, que chacun d'entre nous considère, non pas que nous avons déjà atteint, ni que nous sommes déjà parfaits, mais que nous sommes toujours dans la course et que nous faisons des progrès vers le but. C'est sans doute le fait de se considérer lui-même comme n'ayant pas atteint la perfection et toujours sujet à la faiblesse qui a conduit l'apôtre Paul à rechercher la grâce du Seigneur, qui l'a toujours maintenu dans une attitude humble d'esprit et qui lui a donné de la compassion pour les faiblesses et les défauts des autres. Ce sont ceux qui deviennent arrogants et autosuffisants qui essaient d'enlever la paille de l'œil de leur frère et oublient d'enlever la poutre de leur propre œil. Deuxièmement, la deuxième attitude essentielle que le chrétien doit posséder est l'unité d'objectif. Nous observons l'unité d'objectif que l'apôtre lorsqu'il dit « Je fais une chose », Philippiens 3:13. Pensez-vous qu'il commençait sa journée en disant « Je désire que ma première pensée soit « Que puis-je abandonner de la chair ?» Et quelle leçon vais-je recevoir et apprendre aujourd'hui pour perfectionner ma nouvelle créature ?» Il n'essaya pas d'accomplir plusieurs choses. S'il l'avait fait, il aurait sûrement échoué. Il dévoua sa vie à un but unique auquel il avait été appelé. Et dans ce but, il abandonna toute autre aspiration dans la vie. Il le fit également en vue du fait qu'au travers de toute la vie présente, son choix de vie apporterait certaines pertes, la privation, du labeur, des soucis, la persécution et des reproches continuels. Dans cette unité d'objectif, il a été soulagé d'un grand nombre de tentations, de se détourner et profiter des bonnes choses de la vie présente ou de poursuivre des aspirations illusoires. 3. La troisième attitude essentielle est d'oublier ce qui est en arrière. Nous observons qu'il fit un choix. Il était déterminé d'oublier les choses qui étaient en arrière. S'il avait permis à son esprit de se retourner encore vers les trésors du passé qu'il avait abandonnés, ou même considérer la grandeur du sacrifice qu'il avait fait en se dévouant lui-même à la cause de Christ, il aurait pu tout d'abord être tenté par le découragement, ce qui signifie la perte d'espoir, du courage, l'abattement, pour ensuite se retourner en arrière et rechercher à récupérer les choses laissées en arrière. Avons-nous des choses du passé que nous souhaiterions récupérer dans nos vies? Paul aurait pu porter la vision mentale de sa persécution des chrétiens et son consentement de leur martyr, comme celui d'Étienne et d'autres, se demandant si le Seigneur lui avait pardonné, se condamnant continuellement pour son aveuglement, perdant ainsi sa paix de l'esprit et perturbant ainsi son utilité dans l'œuvre du Seigneur. En ayant accepté le pardon en Christ, il rejeta cette culpabilité également. Bien qu'il ressente fréquemment de lourds remords, et cette pensée semblait influencer toute sa vie de manière à œuvrer d'autant plus diligemment, témoignant de sa reconnaissance pour la grâce reçue, afin d'être longanime avec les autres, tout comme Dieu le fut avec lui. Dans 1 Corinthiens 15, versets 9 à 10, nous lisons « Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Éphésiens 3, verset 8. « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. » Voyez aussi Philippiens 3, 6, Galates 1, 13 et 1 Timothée 1, versets 12 à 16. « Oh, combien il est sage d'oublier les choses du passé. » 4. La quatrième étape essentielle à l'image de Christ est de nous porter vers l'avant. Paul se porta vers ce qui est en avant. Sa foi se saisit des précieuses promesses de Dieu avec une telle ténacité que pour lui, elles étaient devenues des réalités, lui inspirant zèle et fidélité. Vivons-nous dans la réalité céleste qui existe maintenant au-delà du second voile? Paul concentra ses pensées sur toutes les choses justes et célestes, comme il le recommande à chacun d'entre nous en disant, « Aux frères, au reste frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Philippiens 4, 8. « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Philippiens 4, 8. « C'est ainsi qu'il se porta en avant. Et nous devons de même être inspirés à la sainteté, le courage d'endurer et persévérer fidèlement, même dans la souffrance et jusqu'à la mort. » Les habitudes de pensée du chrétien est étroitement liée à notre progrès spirituel, comme c'est également un index de notre état spirituel. Et de bonnes habitudes de pensée doivent être cultivées très attentivement. Ce que notre chair, le monde ou les anges de lumière considèrent comme de bonnes habitudes ne sont pas ce que Dieu ou sa parole de bonnes ce que Dieu ou sa parole considère être de bonnes habitudes de pensée. Par habitude de pensée, nous voulons dire cette condition naturelle dans laquelle l'esprit retourne naturellement au moment de détente mentale. Quelles sont vos pensées naturelles? Quelles sont les pensées naturelles qui vous viennent dans les moments de détente? Tandis que nous sommes engagés dans les obligations de la vie, nous devons par nécessité adapter notre énergie mentale au travail que nous effectuons. Car si nous faisons quoi que ce soit machinalement, sans être concentrés, nous ne pouvons bien l'accomplir. Dans ce cas même, le principe du chrétien bien établi dans le caractère nous guidera inconsciemment. Donc il faut toujours être concentré dans tout ce que l'on fait. Mais lorsque la pression du travail et des responsabilités sont levées, l'habitude de pensée établie, comme l'aiguille retourne vers le pôle, devrait rapidement retourner dans son repos en Dieu. Le psalmiste dit, « Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. » Psaume 116, verset 7. Ne laissez pas votre esprit se relâcher, même temporairement, pour ramper et se délecter de choses terrestres, mais qu'il retourne à son repos et à son rafraîchissement dans la contemplation de tout ce qui est pur, aimable et digne de louange. Notre but ou objectif ou la finalité de notre haut appel repose sur ces beautés de la sainteté, dont l'atteinte, accession sera récompensée par le prix, la gloire, l'honneur et l'immortalité. Que la pensée de Dieu et de Christ et des saints dignes du passé et du présent remplissent continuellement nos esprits et notre héritage céleste. Que la bénédiction de notre travail futur en collaboration avec Christ, dans le cadre de l'ampleur et la bienveillance du plan divin, et la gloire et la bénédiction de notre rassemblement en Christ, lorsque notre travail dans cette vie présente sera accompli, que cela remplisse nos esprits et inspire nos cœurs. Recevons également le réconfort supplémentaire et la bénédiction de la communion personnelle avec Dieu par l'étude de sa parole, dans la prière et en nous rassemblant ensemble pour l'adorer et pour le louer. Cinquième étape essentielle, maintenir son attention sur le but. Nous remarquons le zèle plein d'ardeur de l'apôtre. Il pouvait contempler par les yeux de la foi et désirer ardemment la beauté de la sainteté et la gloire céleste, continuant à courir avec ardeur vers le but pour obtenir le prix céleste éternel. Ce n'est pas suffisant de croire ou de souhaiter que ces choses soient vraies. Mais il nous faut croire fidèlement et courir vers elles, nous efforçant de les atteindre, étudiant et s'appliquant par la grâce de Dieu à courir de manière à l'obtenir. Et dans ce contexte, nous voyons une beauté renouvelée dans l'instruction de l'apôtre. Lutte, lutte, efforce-toi, œuvre pour entrer dans le repos. Plus on travaille dur pour accomplir la volonté du Seigneur en nous-mêmes, dans nos vies, et dans la part de son œuvre qui nous incombe, plus grande sont notre paix et notre véritable repos. Jérémie 6, 16. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, et marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. Matthieu 11, verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Que tous les fidèles prennent courage et s'instruisent de l'exemple et de l'enseignement de l'apôtre fidèle qui lui-même courut victorieusement jusqu'à la fin de sa course. Car la même grâce est également promise pour chacun d'entre nous. Et finalement, chers amis, la sixième étape essentielle pour le chrétien, être un modèle ou un exemple de chrétien. Tout chrétien devrait s'efforcer d'être un modèle digne d'imitation. Un modèle sérieux, s'efforçant fidèlement à copier Christ dans sa vie quotidienne, en manifestant un zèle actif à son service. Nous ne pouvons pas nous attendre à être dans la vie présente un modèle de perfection. Un tel modèle parfait, nous l'avons uniquement en Christ Jésus notre Seigneur. En aucun cas, Paul n'a dit « Suivez-moi » ou « Suivez-nous », mais il a dit « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 1. Finalement, chers frères et sœurs, puisque nous sommes transformés par le renouvellement de notre intelligence, Romains 12, 2, nous observons ces six étapes de développement de notre caractère données par notre cher apôtre Paul pour nous aider à courir la course de notre vie avec patience, aussi bien qu'avec zèle, à cause de la grande joie placée devant nous. En résumé, premièrement, tandis que Paul nous exhorte à être ses imitateurs comme il l'est lui-même de Christ, il est demeuré humble. Il pourrait, gardant toujours à l'esprit qu'il pouvait être rejeté. Deux, il nous montre l'importance de rejeter tous les soucis de cette vie au profit de l'unique but ultime. Prêcher Christ et Christ crucifié. Atteindre le prix de filiation et de cohéritage avec lui en gloire. 3. Sa détermination lui permit de regarder en avant et non pas penser ou demeurer sur les choses du passé, des choses qui seraient pour lui une distraction ou lui apporteraient une tristesse non nécessaire, une culpabilité et une honte inutile, et nous faisant manquer l'opportunité de servir le Maître et ses frères. Quatrièmement, avec une grande certitude, une foi ferme, il regarde chacune de ses épreuves comme des expériences nécessaires pour atteindre le but final. Il continua à avancer, maintenant le regard sur les choses invisibles. Il vivait autant que possible dans la réalité de la vie éternelle, juste au-delà de sa course charnelle. Cinquièmement, il savait que ses efforts et son labeur seraient difficiles, mais que cela lui apporterait une véritable paix et un repos dans la vie présente, et sa victoire tant attendue. Est-ce que c'est pas selon ce que nous désirons les uns pour les autres, cette victoire? 6. Et finalement, nous voyons l'exemple fidèle de Paul et comment il suivit fidèlement le modèle parfait de Christ, s'efforçant d'atteindre les beautés de la sainteté. En Hébreux 12, versets 1 à 2, nous lisons. Paul nous dit, l'apôtre Paul, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Que chacun d'entre vous puisse atteindre la victoire en Christ. Regardez tout autour de vous et souhaitez-le à chacun présent ici aujourd'hui. Que la paix soit avec vous tous. Et pour le reste, nous avons appris hier, il y a ceux qui sont à l'extérieur dont les cœurs tremblent de peur, et quand vous voyez ces choses, levez vos têtes, car votre délivrance est proche. C'est là que notre cœur et notre esprit demeurent, et que le Seigneur ajoute sa bénédiction.